Critique, Père Philippe, 12 juin 1997, Saint-Jean-d'Arc.
Kant Hegel présente l'induction des empiristes pour mieux la rejeter ensuite. Voici ce qu'il en dit. Les empiristes abstraits dans le tout du réel quelques éléments, et comme ces éléments abstraits sont contradictoires, ils ramènent tous ces éléments à l'un d'entre eux en masquant les autres. Hegel suggère alors de faire une dialectique entre les éléments contradictoires, au lieu d'en garder qu'un seul et d'éliminer les autres. Pourriez-vous expliciter tout ce que Hegel n'a pas compris de l'induction quand il l'a définie ainsi? Comment comprendre que Hegel voit des éléments contradictoires à dialectiser là où nous voyons une dualité qu'il faut dépasser? C'est parce que Hegel ne regarde pas l'expérience. C'est très vrai qu'il y a deux types d'induction. Il y a l'induction d'Aristote, puis après, vous avez l'induction aristotélicienne. Il la connaît pas. Il faut dire qu'elle est pas commode à connaître. C'est pour ça qu'on n'en parle pas. Mais elle existe. Aristote en parle. En logique. Aristote en parle en métaphysique. Parce que pour Aristote, l'induction, c'est la démarche par laquelle l'intelligence passe de la multiplicité des réalités à l'unité. Il y a une unité qui est propriété du principe. C'est jamais celle d'Aristote, puisque les empiristes ne saisissent pas de principe. Or, l'induction aristotélicienne aboutit au principe. L'induction baconienne, c'est d'ordre quantitatif. Les inductions qu'on fait avant le suffrage universel. On fait des inductions. Il faut dire d'avance, ce sera comme ça. C'est prophétique. Mais c'est quantitatif. Rien de qualitatif. Et on marche. C'est ça qui est le mieux. C'est très curieux. C'est très très curieux. On nous a tellement abrutis qu'on marche comme des enfants. Alors c'est quantitatif alors. C'est vrai quand c'est quantitatif. On ne découvre pas le principe par la quantité. L'induction baconienne, c'est une induction qui n'est pas une véritable induction et qui fait tout simplement émerger de la quantité ce qui peut émerger, une sorte de mesure. Mais on ne saisit pas du tout un principe. On essaie par la quantité de voir ce qui, de fait, se donnera le plus souvent possible. Ut in pluribus, le plus souvent possible. Mais on reste dans l'ordre de la quantité. Des accidents. Ceux qui peuvent se nombrer. L'induction aristotélicienne n'est pas celle des empiristes, puisque c'est l'inverse. C'est sortir de l'empirisme. Donc c'est la destruction de l'empirisme. C'est essayer de pénétrer plus avant dans la réalité en cherchant le tiesti. Ce qu'est la réalité, c'est chercher dans la réalité ce qui est premier, ce qui maintient dans la réalité son unité, au-delà de la diversité. L'induction aristotélicienne implique toujours une interrogation. Et l'interrogation, c'est ce qui permet à l'intelligence de dépasser la multiplicité pour saisir la source de l'unité. C'est ça le propre de l'induction aristotélicienne. Mais, donc, c'est regarder l'exigence de l'intelligence qui s'exprime par l'interrogation. L'âme de l'induction, c'est l'interrogation. Qu'est-ce la substance ? Tiesti. Qu'est-ce la substance ? Qu'est-ce qui fait l'unité dans la multiplicité ? Qu'est-ce qui fait l'unité de la quantité, de la qualité, de la relation, du mouvement et ainsi de suite ? De tous les 10 prédicaments. Les 10 prédicaments me donnent la multiplicité de l'être humain. Et je veux chercher au niveau de l'être, qu'est-ce qui fait l'unité de toutes ces multiples prédicaments. Leur esti, dans l'ordre de l'être, qu'est-ce qui est premier dans l'ordre de l'être, dans cette multiplicité. Donc, c'est l'interrogation qui est l'âme de l'induction. C'est très curieux. L'interrogation, c'est quoi ? Vous interrogez lorsque vous ne savez pas encore. Mais lorsque vous devinez. Vous voyez ? Comprenez ce que je veux dire ? C'est une sorte de prophétisme naturel de l'intelligence. L'intelligence, elle saisit. Je sens que ça doit être ça. Quelqu'un qui interroge. Et il veut savoir. Et il ne sait pas. Alors, si mon intelligence ne cherche pas, elle ne peut pas interroger. Alors, il y a l'interrogation baconienne. C'est l'interrogation habituelle des gens. C'est la curiosité. Au milieu de toutes les hypothèses possibles, je me dis, ah, est-ce que c'est pas ça? J'ai remarqué une constante. Et à partir de là, je dis, devant une hypothèse, c'est ça. Vu ce qui s'est passé avant. deux, il y a un. Ce n'est pas du tout contradictoire. De fait, ils sont opposés. Ils ne peuvent pas s'unir. La substance première, sujet. La substance seconde, attribut. Donc, ils s'opposent. Ils sont d'une certaine manière contradictoires. Ils sont contraires, mais pas contradictoires. Et pourquoi ne sont-ils pas contradictoires? Parce que ils sont dans deux mondes différents. On dit, la substance seconde, elle existe dans mon intelligence. La substance première, elle existe dans le réel, existentiel. Tous les deux s'appellent substance. Pourquoi? C'est que tous les deux expriment quelque chose de la substance. Dans un ordre donné, tous les deux sont premiers. Et écrivons ça, vous allez le comprendre. Que la contradiction, si c'était contradictoire, chose de commun. Ce que le propre de la contradiction, c'est qu'il n'y a rien de commun. Ceci est, ceci n'est pas. Dans la contradiction, on nie totalement l'autre. Donc c'est des contraires. Et non pas des contradictoires. Mais Hegel confond les deux. Parce qu'il confond l'être et la vie. Alors, en réalité, je interroge. Puisque tous les deux ont quelque chose de premier, et cependant, il y a un ordre. Entre les deux, il y a un et deux. La substance, ce qui est premier dans l'ordre de l'être, n'est ni la substance première, ni la substance seconde. Et donc quelque chose de commun aux deux, au-delà des deux. Et c'est ça que l'intelligence essaie de saisir. Mais c'est le premier de deux premiers. C'est le premier des deux premiers qui, en lui-même, n'est ni la substance première, ni la substance seconde. C'est un au-delà de ces deux premiers. Car ce qu'il y a de commun en substance première et substance seconde, c'est que tous les deux sont substance. Mais la substance en elle-même n'est ni la substance première, ni la substance seconde. Je veux donc dépasser le mode particulier de la substance seconde et de la substance première pour se dire ce qu'est la substance. Et donc je suis dans l'ordre de l'interrogation pour saisir à l'intérieur de substance première et substance ce qu'il y a de commun. Ce qui est de premier. Ce par quoi la substance première est première. Ce par quoi la substance seconde est première. Et cela, c'est la substance. Principe dans l'ordre de l'être. Mais c'est le procédé de l'intelligence qui veut avancer. Alors elle se sert de deux qui sont très proches et qui sont très loin. Et quand je saisis ces deux qui sont très proches et très loin, la manière dont un homéopathe agit, les homéopathes cherchent toujours des signes, et des signes qui, en premier lieu, semblent contraires et relèvent de quelque chose qui est premier. Ça, c'est l'induction qualitative. Et plus la substance première et la substance seconde, plus les deux éléments que je saisis sont contraires, plus facilement je saisis la source qui est à l'origine de ces deux. Alors, l'homéopathe, c'est pour saisir l'équilibre et l'harmonie d'un homme. Mais normalement, un homme qui se porte bien, il n'y a pas ces deux éléments. Quelqu'un les a. Ça prouve qu'il y a une source cachée de ces deux éléments. On cherche toujours la source qui est cachée. Et c'est comme ça que me servant substance première, substance seconde, je saisis la substance principe. Principe de ce qui est. La substance principe de ce qui est à l'origine de la substance première. dialectique est un procédé de recherche. Donc, c'est vrai qu'il peut y avoir quelque chose de commun entre la dialectique et l'induction, puisque tous les deux sont procédés de recherche. Mais le but de l'induction, le but de la dialectique sont tout à fait différents. Le but de l'induction, c'est de dépasser deux modes particuliers de cette réalité que je cherche et de saisir un principe, quelque chose au premier. Le but de l'induction, de la dialectique, c'est de saisir un tout, l'inverse d'un principe. C'est pas du tout le principe qu'on cherche. Ça que je crois très important à saisir, c'est le but de l'induction. C'est-à-dire la substance séparée le sujet, ce qui est capable de recevoir d'autres déterminations. Pierre est intelligent. Pierre, c'est pas l'intelligence. Mais Pierre peut être intelligent. Et donc, dépasser, séparer la substance de ces deux modes, sujet, détermination, essentiel, homme. La substance est essentiellement déterminée. Elle est essentiellement déterminée. Et cependant, elle est capable d'être sujet. Le sujet, c'est ce qui est non déterminé. Elle Le sujet, c'est ce qui est indéterminé. Homme, c'est ce qui est déterminé. Mais dans le sujet, il y a une mise en lumière de l'indétermination. Et dans homme, il y a la détermination essentielle. Et la substance en elle-même explique les deux. Elle est capable de recevoir d'autres déterminations. Pierre et intelligent. Donc Pierre est capable d'être déterminé par l'intelligence, par la bonté, par la grandeur, par telle ou telle qualité. Alors je vais chercher pourquoi. C'est que il s'agit d'une substance là qui implique le corps. Dans Pierre, il y a le corps. Et le corps, c'est une substance indéterminée qui est donc capable de recevoir les autres déterminations. Et Pierre est aussi âme qui la détermination. Donc la substance est substance qualitative, formelle et substance matérielle. Elle est les deux. Oui, la recherche inductive n'est pas du tout quantitative. Ça, c'est pas con. Et au fond, aujourd'hui, quand on parle d'induction, on pense tout de suite à l'induction baconienne. On ne pense pas du tout à l'induction aristotélicienne. Alors qu'Aristote est le premier qui ait parlé d'induction. Il n'y a pas d'induction dans Platon, puisqu'on reçoit tout directement des dieux. Un prophète n'induit pas. Un poète n'induit pas. Il est inspiré. Alors, quand on est prophète, on reçoit. Quand on est un savant, on induit. Quand on est un philosophe, on induit. Mais il y a des philosophes poètes. Alors quand vous avez le cocktail philosophe poète, vous devez déterminer ce qui relève du philosophe, ce qui relève du poète. Platon, c'est un philosophe poète. Quand Platon invente ses mythes, c'est poétique. C'est un langage symbolique. Poétique. Il y a beaucoup de poètes dans Platon. Et quand vous êtes très formé à la philosophie, vous commencez à être un vrai philosophe, et vous lisez Platon, ça vous énerve. Vous vous dites, mais d'où ça vient? Ah, c'est le poète. Vous savez, Claudel, ce qu'il disait, j'ai entendu de mes propres oreilles. On lui demande, je lui ai posé la question, parce qu'il y avait un ami commun. Il dit, j'aimerais savoir comment Claudel comprend l'inspiration. Parce que dans Claudel, il y a des tas de choses qui ne sont pas du tout inspirées, qui sont dans le quantitatif. Alors, Claudel m'a dit, textuellement, j'ouvre le robinet tous les jours, une heure, puis je le ferme. J'ouvre le robinet sans relire ce que j'ai écrit la veille. froidement. Alors quand on lui a mis l'inspiration, il faut la préparer, on l'a pas toujours. On l'a tout le temps l'inspiration. J'ouvre le robinet à telle heure. Et donc à 10h du matin, vous ouvrez le robinet et vous faites votre dissertation d'examen. Ce sera du propre. Non, on travaille. On a fait des inductions avant. Le poète, il ne fait pas d'induction. Il est inspiré. C'est pour ça qu'en Maritain disait et parlait de l'intuition de l'être. Maritain supprimait l'induction. Et ça qui n'est pas bien. Parce que je ne découvre pas l'être métaphysique par une inspiration. Quand vous recevez une douche comme hier, l'orage, avec les gros longs, ça vous tombe sur la tête. Et il vaut mieux à ce moment-là avoir quelque chose sur la tête, parce que les grelots étaient gros et tombaient quand même d'assez haut. Alors ça, c'est l'inspiration. Ça fait la douche. D'eau chaude, d'eau froide. L'induction implique un travail. On a longuement réfléchi sur la substance première, la substance seconde. Et on se pose la question, qu'est-ce qu'il y a de premier entre les deux? Pourquoi on a dit substance? Pourquoi on a dit substance? Pourquoi on a mis le mot substance première, substance seconde? Parce que l'une et l'autre cache la substance principe. Vous expérimentez la substance première, pierre, sujet. Vous expérimentez la substance seconde, l'homme. Vous l'avez abstrait. L'expérience aristotélicienne, l'expérience intérieure de la phénoménologie. J'expérimente que je suis capable de dire homme. Vous ne dites pas seulement Pierre. Vous ne dites pas seulement papa. Vous dites homme. Vous expérimentez ça, deux expériences. Et l'induction, à partir de ces deux expériences que je peux décrire, va saisir le quelque chose de commun. Le dit koinon, le quelque chose de commun à la substance première, la substance seconde, pour saisir le principe. Mais c'est l'intelligence en état de recherche et qui veut connaître et qui veut aller plus loin que l'expérience. Donc, ce n'est pas du tout empiriste du tout. Les empiristes décrivent leur expérience et ne cherchent rien d'autre que l'expérience. Là, au contraire, on cherche à sortir de l'expérience, à creuser l'expérience, sortir ce qu'il y a de commun. C'est pour ça que l'induction montre la vitalité de l'intelligence qui veut dépasser la description et saisir